voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Éduquer, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances, de valeurs et de compétences faisant partie d'une culture commune. Les méthodes d'enseignement et d'éducation sont aujourd'hui largement remises en question. Dans le cadre de l'émission La Voix du Kaizen, j'ai rencontré Annelise Lebrun. Responsable culture et pédagogique à l'Université populaire de Bagnolet, elle a monté un programme de cours d'autodéfense intellectuelle dédié aux collégiens. Dans cette émission, Annelise nous présente ce qu'est l'autodéfense intellectuelle et nous parle de son prochain documentaire tourné dans un collège public. Donc le concept de l'émission, c'est assez simple, La Voix du Kaizen saison 3 parle d'éducation au sens large. Donc différents intervenants, on a eu des écrivains, des réalisateurs, des parents d'élèves, des anciens profs ayant fait le choix de quitter l'éducation nationale, et avec moi Annelise Lebrun. Donc je prends le temps de te rencontrer pour cette émission, et peut-être simplement pour commencer, je vais demander de te présenter. Qui est Annelise Lebrun?
Qui est Annelise Lebrun, ça alors?
Non, je suis là par rapport à cette thématique de l'éducation. On va peut-être commencer simplement par savoir qu'est-ce qui t'y a amené à cette problématique.
Tout simplement en tant que maman, c'est-à-dire que ça fait des années que comme maman, je suis parent d'élève élu et que je fais mon devoir, on va dire, de parent au sein de l'école. Et puis j'ai eu mon troisième enfant qui rentrait en maternelle pendant que mon grand rentrait au collège. Et là, j'ai eu une sorte de, je me suis retrouvée face à une sorte de d'angoisse, de, en me disant mais rien n'a changé en fait. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, depuis tous ces enfants, depuis mon parcours, mon propre parcours scolaire, j'avais le sentiment que l'école était restée complètement statique. Et par ailleurs, le collège dans lequel rentrait mon fils aîné est un collège très évidé, ça veut dire une des classes sociales très homogènes, très populaires, beaucoup issues de l'immigration. Et je me suis engagée un peu plus qu'avant, j'avais un peu de temps à ce moment-là. Enfin, j'ai toujours eu, je ne suis pas salariée, j'ai jamais vraiment été salariée. Je suis une, disons, intermittente du spectacle. Du coup, j'ai toujours eu la chance d'avoir du temps à donner. Et du coup, je me suis engagée sur le collège, sur des actions, sur des choses qui posaient problème, ou en tout cas, la direction et les profs étaient un petit peu... sans solution, voilà. Et à plusieurs, on a commencé à monter quelques projets au sein du collège. Et du coup, alors, arrive à ce moment-là aussi la rencontre avec l'Université populaire de Bagnolet, qui ouvre son association avec leur premier cycle autour de l'éducation. Avec donc là tout un tas de chercheurs sur cette question-là, avec des d'ailleurs souvent des thèses, des idées différentes. Mais du coup, je me suis nourrie beaucoup de ce cycle. Et puis du coup, je suis allée voir plus loin après. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à aller écouter d'autres chercheurs, aller à des rencontres, à me former par ailleurs avec... quelques laboratoires de recherche qui prenaient la question au sérieux à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, j'ai poussé les portes. Voilà, en tant que parent, je me suis mise à faire des choses. Et j'ai transformé petit à petit toutes ces idées, toutes ces rencontres en action. C'est-à-dire que ça s'est passé sur le terrain. Voilà, c'est passé des idées au terrain.
Mais quelles idées? Est-ce que tu peux être un peu plus concrète? Qu'est-ce que tu as eu envie de remettre en cause ou remettre en question dans ce que tu observais dans le système d'éducation classique?
Le constat d'évitement scolaire. Donc quand je suis arrivée dans le collège, jusque-là, donc on est à Bagnolet dans le 93, jusque-là l'école était assez mixte socialement et arrivée en sixième, terminée. Donc c'est un grand choc tout à coup de voir à quel point le collège est fui et laissé uniquement aux classes populaires, uniquement aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Et du coup, ça, déjà, c'est tellement violent, en fait, de ressentir cette fuite de l'éducation nationale. Il y avait aussi un intérêt à comprendre pourquoi. À comprendre pourquoi on en est là et pourquoi est-ce que l'éducation nationale est fuie comme ça. Sachant que, évidemment, en premier lieu, ça n'est pas que l'éducation nationale, hein, évidemment, qui est évitée, c'est les populations qui bénéficient d'une éducation gratuite et voilà, qui sont à tort, hein, complètement à tort, pensées comme moins bonnes scolairement.
Donc en fait, ce que tu observais ici, c'est, tu parles d'évitement, ça veut dire qu'il y a une scission, une division qui se crée entre les classes populaires et ceux qui ont les moyens de pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles privées ?
Ouais, ça veut dire que à l'âge de 11 ans, 11 ans et demi, on dit à certains enfants, vous allez aller dans tel endroit entre vous, dans telle école, parce que maintenant vous avez l'âge vous n'avez plus l'âge de vous mélanger en gros, et puis à d'autres on leur dit voilà, vous êtes là et vous allez rester là et c'est comme ça. Et en fait, c'est violent, je pense, à la fois pour les enfants privilégiés, tout à coup d'être sortis d'un milieu finalement assez mixte pour aller dans quelque chose d'homogène aussi, hein, dans l'autre sens. D'ailleurs, on voit plusieurs gamins qui partent dans le privé et finalement qui reviennent dans le public parce qu'ils sont pas heureux dans le privé. Et par ailleurs, c'est violent pour les enfants qui étaient habitués aussi à avoir des camarades d'ailleurs, enfin d'origine sociale différente, et qui se retrouvent finalement que entre eux, quoi. C'est que la cité, c'est la cité qui est là, et voilà.
Et donc toi, force de ce constat, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et comment est-ce que tu t'y es prise ?
C'est-à-dire qu'en tant que parent, je proposais des choses et il y croyait, il me disait « Ok, on y va, allons-y ». Donc j'ai monté plusieurs projets, dont un qui s'appelle les cours d'autodéfense intellectuelle. Et donc là, je m'étais nourrie encore de tout un tas de choses. Ça faisait longtemps que ça mûrissait en moi. J'avais rencontré Sophie Mazet, par ailleurs, qui avait monté un projet comme ça à Saint-Ouen. J'avais lu Baillargeon. Enfin, j'avais vraiment une idée. J'avais une idée de. Enfin, j'avais des idées, mais j'avais pas la pratique. Et puis donc, le principal adjoint me dit on y va. Donc, ok, on y va. Donc, il a fallu inventer quelque chose. Il a fallu l'adapter à des collégiens et l'inventer. Du coup, ça a été une. Et ce qui était très agréable, c'est que je me suis pas retrouvée avec un programme avec une obligation de réussite. J'avais le droit d'échouer, on avait le droit de prendre du temps, comprendre comment les élèves allaient le recevoir, comment les profs allaient le recevoir, comment le mettre en place, comment rectifier le tir quand ça échouait, enfin comment apprendre des erreurs, etc. Et surtout, j'ai découvert en rentrant dans le milieu de l'éducation la notion de lenteur. Et c'est pour ça que c'est très long tout ça, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on se forme toute la vie et pas uniquement sur le temps scolaire en tant qu'enfant. On apprend avec du désir et voilà. Donc ces cours-là...
Donc les cours d'autodéfense intellectuelle, hein. Oui, c'est vrai. Définis-nous, qu'est-ce que c'est ?
Donc l'idée, c'est de développer l'esprit critique et d'ouvrir l'esprit. Donc j'ai réfléchi, donc je me suis évidemment inspirée des propos du linguiste américain Noam Chomsky et de ce qu'a créé Normand Baillargeon, qui est un pédagogue canadien, en inventant un petit manuel, un petit cours d'autodéfense intellectuelle, mais qui est quand même plus pour les adultes. Et du coup, j'ai cherché à chaque fois à trouver des intervenants qui sont en capacité d'aller développer l'esprit critique. Donc ça peut être sur évidemment tout ce qui est la masse média, la télévision, enfin tout ce qu'ils peuvent ingurgiter et comment le décortiquer et comment surtout ne pas prendre pour vrai ce qu'ils ont pu entendre ou voir, mais toujours être dans le doute. Voilà, donc la notion de base quand même, je pense, du cours d'autodéfense intellectuelle, d'ailleurs, c'est vraiment la philosophie, c'est la question.
Mais comment ça marche ? Quel est le concept ? Quelle est la méthode pédagogique ?
Alors, pédagogie, en fait, moi, je l'ai bien dit, en fait, quand j'ai commencé ces cours-là, moi, je suis parent d'élève, j'ai fait des études dans les droits de l'homme, j'ai travaillé dans la culture, dans le cinéma, je suis pas pédagogue, je sais pas ce que c'est, j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, mais c'est pas ma formation, c'est pas mon métier. Donc, en fait, quand j'ai commencé les cours, j'ai prévenu tous les profs en disant que, voilà, j'avais le désir de monter un projet comme ça, en amenant des spécialistes, des gens qui allaient venir leur parler de concepts et de choses un peu différentes de ce qu'ils ont, de ce dont ils ont l'habitude à l'école. Donc l'idée, c'est vraiment de leur ouvrir un monde qu'ils n'ont ni à la maison ni à l'école. Du coup, je me suis appuyée, moi, du coup, sur chaque spécialiste. C'est-à-dire que je cherche à chaque fois à faire intervenir quelqu'un qui soit en capacité de parler avec les élèves, et qui soient en capacité de faire passer un message clair et qui soit dans une forme de cours qui soit pas la forme classique. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur une forme interactive où les élèves participent, échangent, ils sont pas seulement spectateurs. Voilà, ils participent.
Donc ça commence par un goûter et ensuite tu fais venir un intervenant à chaque séance pour pouvoir créer la confrontation, le lien, en tout cas développer cette curiosité.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est, t'as dit le bon mot, c'est la curiosité, c'est de développer de la curiosité. Et voilà, et de les mettre en fait plus à ce moment-là en tant que seulement élève, mais en tant que personne du monde. C'est-à-dire considérer qu'ils sont des personnes du monde, donc des personnes dont on a besoin de la vie et surtout qui doivent participer de cette société, participer de ce monde et du coup le développer, être complètement acteur. Voilà. L'idée du spécialiste, c'est d'avoir un premier concept, une première idée, quelque chose à développer avec eux et qui va les amener à réfléchir ensemble et à réfléchir à quelque chose sur la société. Le cours d'autodéfense intellectuelle, donc il ouvre avec un goûter, un spécialiste vient, le spécialiste il peut être donc à la fois de la recherche, sachant que souvent les chercheurs le font avec grand plaisir parce qu'ils aiment leur métier, ils sont ravis de partager ce qu'ils font, ils sont ravis de pouvoir rencontrer des élèves. Voilà, donc ils le font souvent avec plaisir. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui se déplacent, elles le font de manière bénévole. Donc elles le font avec un vrai souci aussi de partage.
Anne-Lise, toi, tu t'es donc intéressée à l'éducation parce que tu es d'abord maman, hein, donc de 3 enfants à des âges différents. Tu as voulu t'impliquer à ta manière en apportant des outils ou quelque chose qui paraissait juste pour toi. Je vais te poser une question un peu naïve, mais quelle serait pour toi l'école idéale? Comment est-ce que tu la conçois? Comment est-ce que tu la verrais?
En fait, je trouve que c'est une question complexe. Je pense évidemment que l'école, elle est fondamentale pour que la société change, hein, c'est-à-dire qu'elle fait partie en tout cas de... L'idée, c'est, enfin, mon école idéale, je l'ai pas. Je sais que je crois fondamentalement qu'on se forme toute la vie, en fait. Donc, je pense pas qu'on s'arrête à l'école. Mais évidemment, je crois à une école qui soit une école qui sont en capacité de pas faire en sorte qu'on en sorte malheureux ou en sensation d'échec ou c'est mon idéal serait une école émancipatrice et une école où on puisse se sentir inséré dans une société même si on n'a pas tel boulot, qu'on puisse se sentir utile et heureux de vivre en société, dans une société démocratique.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Bon, tu me disais avant dans ta cuisine que tu es aussi en réalisatrice et que tu es en train de faire un documentaire.
Ben justement, alors mon documentaire, c'est un documentaire sur un collège public. Parce qu'effectivement, j'entends l'importance aujourd'hui. Alors peut-être parce que moi, j'ai justement, c'est ma représentation du monde et j'ai les deux pieds dedans et de l'école. Mais j'entends beaucoup de gens taper sur l'éducation nationale, vouloir à tout prix l'éviter, mettre leurs enfants dans des écoles merveilleuses, mais qui sont complètement hors sol parce qu'ils coûtent très cher et du coup, qui favorisent des milieux très favorisés déjà. Moi, vraiment, c'est très militant, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'école publique et de changer l'école publique de l'intérieur et de ne pas construire d'autres écoles pour d'autres enfants favorisés qui ont des parents qui ont les moyens de les mettre, mais c'est de faire une société qui soit une société ouverte et gratuite pour tout le monde. Du coup, de travailler précisément sur cette école publique. Et je pense que c'est réellement en travaillant à l'intérieur d'un système qui n'est pas complètement acheté, le code, alors c'est la théorie, mais le code de l'éducation nationale promeut la liberté des esprits libres et conscients de grandir en démocratie, de pouvoir élever des citoyens démocrates. Et du coup, l'idée du film, c'était justement de montrer. Je vois beaucoup de parents se plaindre, ne jamais être contents, mais c'était de montrer à quel point l'école, c'est pas uniquement un élève dans sa classe, que c'est un élève dans un monde scolaire avec tout un tas d'autres camarades, avec tout un tas de profs différents. avec tout un tas de projets qui ne sont pas uniquement scolaires dans le cadre scolaire, avec des moments de récréation, des moments de club. Voilà, l'école, c'est un monde. C'est-à-dire, c'est pas uniquement... La représentation du parent, elle est souvent d'imaginer son enfant en classe, assis, et qui, effectivement, précisément, s'ennuie. Voilà. Après, le collège que j'ai choisi, c'est un collège public, mais de banlieue, enfin, voilà, qui est un collège, d'une certaine façon, qu'on pourrait dire, basique. Et en même temps, effectivement, qui a des, qui a une équipe éducative aujourd'hui formidable, c'est-à-dire qui a mis l'élève au centre et qui, enfin, et l'éducation au centre et qui réfléchit réellement à ce que c'est que l'éducation. Parce que dans éducation nationale, on n'entend pas instruction nationale, on entend bien éducation nationale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que instruire des élèves. Et du coup, eux-mêmes se sont mis en marche, donc à la fois l'équipe de direction, à la fois l'équipe de profs, à imaginer une nouvelle école dans le système public, c'est-à-dire dans un système qui existe déjà et de pouvoir le transformer. Je m'en suis rendu compte en commençant à filmer. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment d'idée préconçue non plus sur ce collège. J'y étais en tant que maman. J'y mène mes cours d'autodéfense intellectuelle. Et j'ai commencé à faire ce film précisément parce que je m'interrogeais sur ce qu'était l'éducation nationale. C'est-à-dire que j'avais envie d'en savoir beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin. J'avais envie d'aller dans la salle des profs. J'avais envie d'aller comprendre justement le prof, quoi. Le travail qu'il a dans sa classe, mais pas seulement, tout le travail qu'il a à côté, le travail qu'il a avec ses collègues, le travail qu'il a en dehors pour monter ses cours, le travail qu'il a sur ses projets. Donc je me suis mise en tout cas à filmer, en me disant au tout départ que j'en avais marre de voir tous ces parents qui... toute cette mauvaise réputation en fait. Ce collège a une très très mauvaise réputation de violence, de mauvais résultats.
Tu disais que tu as envie de t'intéresser à l'éducation nationale, ce que c'est comme institution, aller dans la salle des profs, mieux comprendre ce système-là. Est-ce que c'est un système qui est rigide ou est-ce qu'on peut le réformer par l'intérieur ?
Ben justement, non. Moi, je crois, c'est là où je crois. Je pense qu'il faut évidemment du désir et puis de la liberté. Hein. Il faut être en capacité de se sentir libre parce que ça reste une institution assez hiérarchique. Mais finalement, quand on rencontre des équipes, et c'est très possible, c'est pareil, c'est inscrit dans le code de l'éducation nationale de liberté pédagogique. Hein. Enfin, la liberté pédagogique est inscrite partout, donc voilà. Les profs ont... ce qui est très compliqué, je pense, pour eux, c'est tout ce qui est l'inspection. L'inspection, c'est-à-dire qu'ils ont un programme à respecter. Il y a quelque chose de lourd sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte d'obligation de réussite de quelque chose, alors qu'en réalité, la réussite, elle n'est pas là. Et donc, j'ai rencontré des profs, au contraire, qui sont, alors comme beaucoup de profs, je pense, accablés d'une certaine façon par la grosse machine de l'éducation nationale, mais qui ont tous pris la liberté de leur métier. Pour la plupart, ils ont un réel amour de leur métier, une réelle passion de leur métier. Du coup, ils sont dans des, ils ont pris la liberté de ce qu'ils pensent être le mieux pour les élèves. Et du coup, la plupart travaillent sous forme de projet, travaillent de manière très coopérative et sont pas dans la compétition avec les élèves. Enfin, donc oui, je crois ça très sincèrement. Là, c'est une équipe aussi de direction. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de profs très motivés très passionnés par leur métier. Il y a une équipe de direction qui est dans la réflexion de comment mieux faire, de comment trouver les meilleures façons de réussir et de ne pas mettre les élèves en échec ou en tout cas dans le sentiment d'échec. Et du coup, là, on se retrouve avec des professionnels remarquables mais, et qui sont dans l'éducation nationale avec cette conscience très précise, encore une fois, de l'éducation nationale et pas seulement l'instruction nationale. Et du coup, qui se forment. Je pense, mais je le redis, je l'avais dit au début, je pense qu'encore une fois, on se forme toute la vie. Ça, c'est fragile. Et je pense que c'est des perches, quoi. C'est de dire, soyez curieux, quoi. Continuez à être curieux toute votre vie. Continuez à vous interroger, à douter surtout tout le temps, quoi. Ne vous arrêtez jamais de douter.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.